Bonjour tout le monde. Ça va bien? Good. Cette semaine, on va... Je commence souvent par ça. Cette semaine, on continue ce qu'on a commencé la semaine passée. Il me semble, quand on est dans une série, cette phrase-là revient souvent. J'essaie de m'imaginer d'autres façons, puis j'en reviens tout le temps à celle-là, pareil. Ça fait plusieurs semaines qu'on a commencé la série sur la souffrance. Dans ce cas-ci, c'était là, 2 semaines qu'on a eu notre dernier temps ensemble. Et puis, plus on creuse ce sujet-là, en tout cas, c'est ça que ça fait, plus je me rends compte que c'est un sujet immense. C'est un sujet qui en englobe tellement d'autres. Et qu'on pourrait en parler jusqu'en décembre. C'est quelque chose, hein? Et c'est un sujet qui nous touche tous d'une façon personnelle, d'une façon très proche. On a tous vécu des souffrances, peu importe notre âge. On a vécu des souffrances. Il y en a des grandes, il y en a des plus petites, mais n'empêche qu'une souffrance, c'est une souffrance. Et comme on a vu, chaque souffrance est unique. On ne peut pas juger la souffrance d'un autre. Même si on a vécu une situation similaire, à cause que chacun de nous, nos histoires sont tellement différentes, nos contextes de vie sont tellement différents, nos expériences, nos fondements, nos relations sont tellement différentes que on peut avoir passé le même type de souffrance et l'avoir vécu d'une façon complètement différente. Ça fait en sorte que quand on regarde un sujet de la souffrance, ça nous appelle tous à la prudence. Vraiment à la prudence. Face à la souffrance d'un autre ou même à la nôtre, la prudence est de mise. Parce que tellement de façons de le voir. Et c'est merveilleux de voir comment est-ce que la parole de Dieu va donner une réponse. La parole de Dieu va accompagner chacune de nos souffrances. Bien que ce soit un sujet complexe, la parole de Dieu est en mesure d'aller répondre, d'aller accompagner, d'aller aider chacune des personnes qui vit une souffrance. Dans les derniers temps, on a pris le temps beaucoup de regarder la souffrance d'une façon globale. Vraiment, c'est quoi le on prend un pas de recul, puis on regarde de haut, si on peut dire, ce grand sujet-là de la souffrance. Et cette étape-là, comme je vous le dis encore cette semaine, il y en a qui l'ont peut-être pas entendu encore, cette étape-là est essentielle parce que c'est une étape de préparation pour le jour où on va être les deux pieds dedans. De comprendre le rôle de la souffrance dans le monde, de comprendre la position de Dieu face à la souffrance. Pourquoi la souffrance est présente? Ça ramène à remettre en question l'existence même de Dieu, ce sujet-là de la souffrance. Et c'est un des plus grands reproches qu'on fait au Seigneur quand on s'en va dans la vie de tous les jours, quand on parle avec les gens qu'on côtoie au quotidien. Les gens disent, comment est-ce qu'un Dieu qui est bon et tout puissant ne fait rien face à cette souffrance-là? Comment un Dieu qui est bon reste insensible face à la souffrance? Ça doit être parce que, en réalité, Dieu, il est pas capable de rien faire face à la souffrance. Parce que moi-même, si j'aurais la capacité de faire quelque chose, je le ferais. Si Dieu est bon et il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. S'il est tout puissant et il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'est pas réellement bon. Voyez le lien qui est fait, puis on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, puis je vais vous inviter à aller réécouter les messages. Ils sont maintenant disponibles sur Internet. Je vous encourage à aller sur le site de l'Église et à aller les écouter pour chacun des dimanches qu'on a fait depuis le début. Ça fait 6 ou 7 dimanches qu'on parle de la souffrance. On a creusé chacun de ces sujets-là en profondeur pour apporter une réponse, pour vraiment venir recadrer la souffrance dans notre vie. Et dans le but de nous emmener à nous rapprocher de Dieu pendant nos souffrances et non de nous en éloigner. On a vu les sources de la souffrance, où est-ce que ça vient la souffrance. On a vu l'élément impersonnel de la souffrance. On a vu l'élément de la souveraineté de Dieu beaucoup à travers ça. On a parlé la dernière fois du rôle de Jésus-Christ à la croix. On a un Dieu qui n'est pas loin, qui n'est pas insensible à la souffrance. Quand on constate la souveraineté de Dieu, oui, Dieu est au contrôle, même de la souffrance. Si la souffrance existe, c'est que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Il ne l'a pas créé, mais il l'a permis. Et la souffrance n'est pas au contrôle de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de la souffrance. Ça serait terrible, cette idée-là, si on aurait un Dieu qui se tiendrait loin de la souffrance et qui n'en vivrait pas lui-même. Mais au contraire, Dieu s'est soumis lui-même aux souffrances. Et la plus grande démonstration de ça, c'est Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas de plus grande souffrance qui a été vécue que Jésus-Christ à la croix. Et si on veut aller en plus en profondeur dans ce sujet-là, je vous invite à écouter le dernier message. Mais le fait que Jésus, que Dieu lui-même, se soumet à cette souffrance-là, montre, prouve, hors de tout doute, que la raison pour laquelle la souffrance est présente dans le monde, c'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. L'être humain peut faire plein de reproches à Dieu pour l'existence de la souffrance. Mais celle qui est inacceptable, les autres le sont pas plus, mais une qu'on ne peut définitivement pas choisir comme conclusion, c'est que Dieu ne nous aime pas. Même si on comprend pas toute la souffrance, parce qu'on n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas douter de son amour à cause de la souffrance ou lorsqu'on est en souffrance. Et le fait que Dieu demeure au contrôle des souffrances, c'est rassurant. Parce que quand on est dans la souffrance, on sait que Dieu est toujours au contrôle, qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur malgré le fait qu'on souffre ou qu'on vit des temps difficiles. Peter Berger prétend que toutes les cultures et tous les peuples cherchent à trouver du sens dans l'expérience de la souffrance et du mal. Selon la théologie chrétienne, la souffrance n'est pas absurde, que ce soit d'un point de vue général ou particulier. Le but de Dieu a été de vaincre le mal à la croix de manière si poussée qu'un jour, tous ses ravages seront anéantis. Et malgré le fait d'y avoir eu une grande part, les chrétiens seront sauvés. Dieu accomplit son plan, non pas malgré la souffrance, la douleur et la perte, mais à travers tout cela. La souffrance, la douleur, la perte jouent un rôle fondamental dans le plan de Dieu. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre. Que le plan de Dieu va s'accomplir à travers la souffrance, la douleur et la perte. Elles ne sont pas exclues du plan de Dieu, elles font partie du plan de Dieu. Donc, de trouver de la douleur, de la perte et de la souffrance dans nos propres vies, il ne faut pas se surprendre. Mais on se souvient, le plan ultime de Dieu, c'est de l'anéantir. Et de l'anéantir, cette souffrance-là, à un niveau supérieur à ce que n'importe quel être humain pourrait imaginer ou rêver. Mais en attendant que Dieu le fasse. Dieu a un plan pour nos souffrances, pour nos douleurs et pour nos pertes. Elle joue un rôle. Et ce matin, c'est ce qu'on va commencer à regarder, à l'utilité de la souffrance. C'est pas simple. OK? Je vous le dis d'avance. C'est pas simple. Et je vous dis, pour l'être humain, il y a des vérités difficiles à avaler quand on regarde à ces sujets-là. Parce qu'il faut accepter des choses fondamentales par rapport à Dieu que l'être humain a de la misère à avaler par lui-même. Mais ces éléments-là jouent tellement un rôle essentiel. Il est tentant de se demander si Dieu n'aurait pas pu agir autrement, en n'autorisant ni misère ni deuil. Mais la croix nous assure que les voies insondables cachées derrière le cours de l'histoire sont motivées par l'amour de Dieu pour nous et son engagement total envers notre joie et gloire. La souffrance se situe donc au cœur même de la foi chrétienne. Elle constitue non seulement la voie par laquelle Christ s'est fait homme et nous a rachetés, mais elle est aussi la voie principale par laquelle nous devenons comme lui et vivons sa rédemption. Ainsi, notre souffrance, aussi douloureuse soit-elle, a énormément de sens et d'utilité. La souffrance, elle est utile. Elle est utile, la souffrance. Elle joue un rôle dans notre vie. Et juste le fait de penser ça, c'est déjà contre-culturel. Déjà, drette en partant, ça commence raide. La société moderne rejette en grande partie l'utilité de la souffrance. Elle lutte en grande partie avec son utilité et recherche son contraire, le confort, le bonheur et la réussite personnelle. Pourtant, dans la souffrance se trouve une utilité que même les psychologues modernes reconnaissent. Oui, la souffrance ne produit pas que du bon. Il y a des mauvaises choses qui ressortent de la souffrance, l'anxiété, le stress qui nous amène la maladie, qui nous amène toutes sortes de choses. C'est des choses qui sont les conséquences de la souffrance, mais aussi la souffrance produit des bonnes choses. Et les psychologues sont d'accord pour le dire. Mais produit quand même de choses qui poussent l'être humain vers une croissance qui n'aurait pas été possible sans l'adversité. Quand on regarde à ces utilités-là, quelle utilité la souffrance? Une des premières choses que les psychologues ont soulevées, c'est que la souffrance, d'un point de vue humain, les personnes capables de supporter et de dépasser la souffrance deviennent plus résistantes. Une fois qu'elles ont appris à se battre, qu'elle a eu la victoire, qu'elle a passé à travers des choses difficiles, ils se savent, l'être humain se sent capable de refaire et de revivre une même situation avec une angoisse moindre. Donc, il y a un processus de développer une résistance et à chaque fois de revivre des situations stressantes ou peu importe, d'une façon plus sereine et plus saine. Il y a une forme de résistance qui s'installe. Deuxième chose que les psychologues ont constaté, c'est que la souffrance améliore les relations humaines. L'affligé approfondit souvent sa relation avec ses amis et renforce ses liens familiaux, ce qui le fortifie et le nourrit durablement. Quand on est dans la souffrance, l'être humain s'entoure et on peut parler de plein de situations. On le vit localement, même dans la ville ici à Saint-Félicien, quand il arrive des drames qui touchent la région, la population se mobilise. Il se passe des choses, il y a des levées de fonds qui sont faites, il y a des marches qui sont organisées et on le voit partout dans les communautés. Quand l'être humain souffre, ses relations s'améliorent, qui est une bonne chose. Ça fortifie, ça le nourrit d'une façon durable. Troisièmement, la souffrance change les priorités et la philosophie du quotidien. Et celui-là semble être un de ses bénéfices les plus grands. Et elle confronte notre vision du monde, souvent naïve et irréaliste. Quand on souffre, ça remet en question bien des choses. Ça remet en question notre compréhension des situations. Ça remet en question nos relations, nos amis, nos priorités, les désirs de nos cœurs. Ça remet en question plein de choses et les souffrances nous appellent à revisiter notre façon de voir les choses, à revisiter nos priorités et les philosophies du quotidien. Pour une personne que la réussite est toute dans la vie, il va se donner corps et âme au travail, c'est un exemple facile, et sans le savoir, il va négliger tout ce qu'il y a autour. Il va négliger son corps, il va négliger sa famille, il va négliger son conjoint, sa conjointe. Parce que pour lui, la réussite est une priorité. Il va se taper quoi? Un burn-out. Une dépression. Cette adversité-là dans sa vie, qu'est-ce que ça va lui apporter? À revisiter ses priorités. À revisiter l'ordre dans lequel il place les choses. Ça va l'obliger à arrêter, à mettre de côté sa première priorité parce qu'il n'est plus capable de l'accomplir. Il va se tourner vers ses relations, vers ses amis. Il va se tourner vers sa famille. Et c'est eux qui vont le relever. C'est eux qui vont le remonter. Quand il va aller mieux, est-ce qu'il va, logiquement, quelqu'un qui apprend de ses erreurs, est-ce qu'il va retomber dans le même piège? Logiquement, non. Après un certain temps, peut-être. C'est possible. Et c'est correct. On vit toutes les choses d'une façon différente. Comme je vous dis, chaque souffrance est unique. Et qu'est-ce qui a emmené la personne vers une dépression? Ça peut être complètement autre chose que mettre le travail en priorité. Vous savez, chaque cœur est unique, chaque histoire est différente. Mais c'est vraiment juste pour dresser un tableau général, pour nous emmener à mieux comprendre ces éléments-là. La souffrance dans la vie, elle peut contribuer à chacune de ces trois choses-là. À développer notre résistance, apprendre à faire face, à vivre, je pense, à fonctionner dans la réalité du monde dans lequel on vit. La souffrance est partout, l'adversité est partout, les difficultés sont partout. Et de ne pas vouloir le voir, c'est de vivre dans un monde de licorne. Et le jour, la personne qui vit dans un monde de licorne, le jour qui va vivre la souffrance, ben ses priorités puis sa philosophie du quotidien, sa vision du monde va être confrontée. Elle va bien se rendre compte que sa vision du monde là, un monde de licorne, est pas réelle du tout, du tout, du tout. Puis elle va l'apprendre à la dure, malheureusement. Vous savez, donc la souffrance va contribuer à ces choses-là dans sa vie qui est pas des mauvaises choses. D'un point de vue chrétien, ouais, quotidien. Quotidien, ben ça, faut pas s'en faire. C'est pas grave, faites-vous-en pas. Du quotidien, ça change la philosophie du quotidien. Une erreur de plus dans ma vie, qu'est-ce que tu voulais? Les fautes de français, j'ai de la résistance. Il ne dérange plus mes fautes. D'un point de vue chrétien, la souffrance, toutes ces choses-là, OK, on les voit dans la parole, sont pas en contradiction avec ce qu'on voit dans les Écritures, OK? Mais la souffrance accomplit aussi beaucoup dans notre vie à un niveau encore plus grand. Et c'est important en tant que croyant de le considérer sous cet angle-là. Oui, toutes ces choses-là sont bonnes. OK? C'est correct. Ils sont vrais. Oui, oui, ils sont vrais. C'est correct. Mais il y a un autre niveau encore qui vient donner son sens premier à la souffrance. Elle contribue activement à ce qui devrait être la priorité numéro un dans notre vie. Qui est quoi? Ressembler à Jésus, Dieu, oui, mais encore, la priorité de Dieu, numéro un dans notre vie, c'est Dieu, OK? C'est quoi? C'est sa gloire. La gloire de Dieu. La priorité numéro un dans la vie du croyant, c'est la gloire de Dieu. Dans de nombreux passages dans les Écritures, on voit que le mot « souffrance » et « gloire » sont associés. OK? On va prendre le temps d'en regarder. Romains 8, 17, 18. « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, on parle enfants de Dieu, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Donc, on voit clairement ici, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Donc, il y a l'élément que la souffrance apporte la gloire ou révèle la gloire dans Romains 8, 17, 18. 2 Corinthiens 4, 15 à 18. « Ainsi donc, ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Encore là, cette notion de souffrance qui va apporter la gloire. 1 Pierre 4, 12, 13. « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, « réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Donc, encore là, il y a la notion de participer à la gloire de Dieu, que nos souffrances apportent la gloire, celle de Dieu, mais aussi la nôtre. C'est intéressant, ça aussi. C'est pas seulement, ça apporte pas seulement la gloire à Dieu, la gloire de Dieu. Il y a un élément pour nous aussi là-dedans. C'est pas inutile. La gloire pour nous, c'est que quand on regardait, je sais pas s'il faut revenir loin, dans 1 Pierre 4, 12 à 13, quand il y a cet élément-là, c'est dans 1 Pierre 1, je pense que je l'ai juste après. 1 Pierre 1, 6, 7. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est la gloire de qui est là, là? C'est nous. Elle nous vaudra louange, gloire et honneur. La foi qui a résisté à l'épreuve va nous apporter quelque chose à nous en tant que croyants également. Oui, Lorraine. Quand on est à la bonne place dans l'épreuve, effectivement, qu'on peut y goûter aujourd'hui, dans le déjà pas encore. Mais c'est sûr que le jour où on va être devant Dieu, tout le reste tout le reste va disparaître. C'est évident. Et là, toute la gloire de Dieu va être manifeste. Et la façon dont Dieu va nous accueillir aussi, à cause de notre foi, il y a vraiment un élément où est-ce que Dieu nous rend honneur, là. Dieu, il fait quelque chose avec nous autres. Il est pas, ah, ben, ils viennent d'arriver. Bon, ben, c'est correct, j'irai voir tantôt. Non, non. Dieu, il prend plaisir à notre présence. Il prend plaisir. Notre foi qui a passé l'épreuve, notre foi qui est sûre, sous laquelle on peut s'appuyer, va vraiment faire plaisir à Dieu. Et il y a un élément où est-ce que il va y avoir louange et gloire et honneur quand Jésus va revenir pour ses enfants. Dieu fait tellement partager sa gloire avec ses enfants. Quand il dit que Dieu est généreux, là, dans son plan, ça dépasse même notre entendement. Dieu nous partage de sa gloire. On va devenir le reflet de sa gloire. C'est dans ce sens-là qu'il est expliqué ici, là. Dieu nous partage même jusqu'à sa gloire. C'est quelque chose. À ce point-là, on prend part à l'œuvre de Jésus-Christ. À ce point-là, on prend part à ses souffrances. Donc, on peut pas dissocier gloire et souffrance. Ça va ensemble. Nos souffrances ne sont pas inutiles. Elles contribuent à la gloire de Dieu. OK? Comme on a dit, il y a un élément important là-dedans, d'avoir les yeux à la bonne place. Si nous traversons nos épreuves avec succès, nos souffrances glorifient Dieu. Cette vision de la vie vient confronter l'enseignement populaire que Dieu est là pour notre propre bien-être personnel. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner, OK? Il y a vraiment une prise de conscience à prendre ici face à la théologie de la souffrance. Quand on regarde et on considère la souffrance comme on le fait depuis le début, cet élément-là qui vient confronter peut-être notre vision du rôle de Dieu dans notre vie, où est-ce que Dieu est là pour notre bien-être personnel, pour faire de nous des gens heureux, prospères et en bonne santé. Comme si Dieu devenait un protecteur contre le monde déchu dans lequel nous vivons encore. Parce que je suis chrétien, parce que je fais ce que Dieu me demande de faire, c'est comme si Dieu va me permettre de me soustraire du monde déchu dans lequel on vit. Dieu va devenir une protection entre moi et la réalité du monde déchu dans lequel on vit. Donc, la souffrance, la pauvreté, le malheur, être malheureux ne m'atteindra pas parce que moi j'ai Dieu. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu a voulu les choses? Est-ce que Dieu nous a dit qu'il va nous soustraire de la souffrance du monde? Mais il dit de pas être surpris, on le dit, hein? Puis il va être avec nous. Ça veut dire que la souffrance fait partie de notre vie. Et on n'a pas à s'en surprendre. Oui, Dieu désire notre bonheur et notre bien. C'est vrai. OK? Faites-moi pas dire que j'ai dit que Dieu veut pas notre bonheur, que Dieu veut pas notre bien. C'est pas ça que j'ai dit. Mais pas une vision terrestre et humaine de ce bonheur-là et de cette prospérité-là et de cette santé-là. OK? Oui, le Seigneur est honoré quand on gère bien notre vie, quand on prend soin de notre corps, parce que notre corps est quand même un véhicule essentiel si on veut demeurer dans ce monde. OK? Fait que c'est pas une mauvaise chose de prendre soin de notre corps. Puis on glorifie Dieu en le faisant parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'élément de bien gérer ses biens, de bien gérer son argent, de faire prospérer ce que Dieu nous donne, oui, c'est toutes des choses qui sont bien et encouragées dans les Écritures. OK? D'être des bons gestionnaires, d'être sages. Toutes ces choses-là, on est encouragés à le faire. OK? Elles ne sont pas mal en soi. sont bonnes. Toujours avec la vision juste de la vie ici. Que ici sur terre, ce n'est pas notre royaume. On n'est pas là ici pour construire notre royaume. Le paradis, la paix sur terre, ça ne sera pas ici. Donc, si on vit pour s'installer en permanence sur la terre, notre vision n'est pas à la bonne place. Notre cœur n'est pas à la bonne place. Et la souffrance, les souffrances, vont nous rappeler ces vérités-là. Vont venir confronter notre vision de la vie, notre vision du monde. Beaucoup de personnes sont convaincues que si je marche avec Dieu et que je fais sa volonté, tout va se passer comme moi je l'ai planifié, comme moi je l'ai voulu, et puis comme c'est logique que ça se passe. Si je suis Dieu et je prie Dieu et que je suis patient, mon projet va réussir. En plus, c'est pour sa gloire. Si je suis prospère, si ça va bien, je vais mettre toutes ces ressources-là pour le bénéfice du royaume de Dieu et ça ne peut pas faire autrement que de marcher parce que ça va glorifier Dieu. C'est-tu comme ça que ça se passe en réalité, dans la vraie vie? C'est-tu comme ça que ça arrive? Et voilà, des fois, mais pas tout le temps. Et c'est là la beauté de la chose. Des fois oui, des fois non. Et c'est là que notre foi est éprouvée. Notre conception du rôle de Dieu est éprouvée. En préparation au message, j'ai lu des histoires de missionnaires. Écoute, ils ont tout donné pour le Seigneur. Ils ont tout quitté pour le Seigneur. Ils ont travaillé pendant des années. Et là, il est arrivé des événements dans leur mission. Coup sur coup, ça a fait que tout est tombé à l'eau. Les années investies, les sacrifices qui ont été faits, tout ça est tombé à néant. Et là, tu dis, aïe aïe, aïe aïe, est-ce que Dieu est mon allié? Si Dieu n'est pas mon allié, c'est comme si Dieu m'a trahi, là. On travaillait ensemble, Seigneur. Je vis ma vie ensemble avec toi. Je veux t'honorer, je te cherche, je te suis. Puis, t'es supposé être mon allié. Et puis là, tout ce que j'ai construit dans les dernières années s'effondre. C'est quoi ça si c'est pas une trahison? Ça va loin, hein? Notre compréhension de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est glorieux. Dieu est souverain. Et on va le voir dans l'élément de la gloire de Dieu que Dieu nous dépasse, Dieu nous surpasse en toutes choses. Et Dieu ne fonctionne pas de façon logique, humainement parlant. L'histoire de Job est le meilleur exemple de ça. Il y a tellement de passages dans les Écritures qui le démontrent. Dieu n'a jamais répondu à Job à sa question « Pourquoi? » Et il a juste répondu en disant « T'es qui, toi? » Et voici, moi, qui je suis. Et Job a dit « C'est correct. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Et je me repens. » Il a vu la gloire de Dieu. Mais, vous savez, devant des situations qu'on n'est pas en mesure de comprendre, c'est là que notre vision de Dieu est confrontée. Est-ce que j'ai mis Dieu à sa place de souverain dans ma vie ou j'ai fait de Dieu un allié pour mes projets, pour ma vie à moi? Et On peut dire que cet évangile de prospérité-là, qui promet le bonheur, l'abondance et ainsi de suite, se cache, le principe se cache aussi derrière ce qu'on vient d'exprimer là. À une plus petite échelle, même si, bon, de vouloir la prospérité, la richesse, toutes ces choses-là, ça fait pas très chrétien, mais on va vouloir à se mettre, on va changer cette image-là pour en mettre une autre, celle qui est plus pieuse ou qui est plus acceptable. Je vais m'en aller missionnaire. Je vais donner ma vie au Seigneur et je vais accomplir des grandes choses pour Dieu. Puis Dieu ne peut pas être contre ça parce que c'est ce qu'il veut lui aussi. Fait qu'ensemble, Seigneur, on va aller puis on va travailler. C'est le même principe que l'évangile de la prospérité. C'est juste que l'objet recherché est complètement différent. Mais le principe, comprenez, reste le même. On met Dieu dans une case où, qui ne lui appartient pas. Et de mettre Dieu dans cette case-là nous permet de contrôler Dieu d'une façon logique. Et ça nous emmène dans une relation de manipulation avec Dieu. Seigneur, je veux que ça arrive. Hey, Seigneur, pour la mission, pour l'œuvre, ça serait très, très bon que ça se produise. Wow! Bon, ben là, on va travailler là-dessus, Seigneur. Puis là, tu pries, et puis là, tu fais toutes sortes d'éléments, puis tu mets corps et âme pour ce que toi, tu penses être logique, se produise. Comprenez l'idée, là? Puis si Dieu le fait pas, ben là, on tombe complètement découragé, et puis on sent que Dieu nous a trahis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nos souffrances réalignent notre conception de la vie et notre compréhension de la personne de Dieu. Elles détournent nos cœurs de ce qui n'est pas important pour nous apporter une vision plus juste de la vérité. Je pensais que j'avais mis l'autre texte. Il n'est pas anormal pour un humain qui recherche sa réussite, son bonheur personnel et la prospérité de voir ce qui menace ces choses. Il n'est pas normal, oui, c'est ça. Il n'est pas normal pour un humain qui cherche sa réussite, son bonheur personnel et sa prospérité de voir ce qui menace ces choses comme une chose qui est bonne. L'homme qui recherche sa propre gloire n'y arrivera pas et les épreuves de la vie seront toujours un embarrassement. La façon dont on voit les épreuves en dit long sur l'endroit où nos yeux sont fixés, soit sur le monde terrestre ou soit sur la vie éternelle, le monde céleste. Et c'est normal pour un être humain qui veut construire son royaume de voir tout ce qui menace son royaume et son plan comme étant quelque chose de mauvais et quelque chose qui doit être évité à tout prix. Pour que l'homme voie l'épreuve comme bonne et utile, il doit avoir les yeux à la bonne place et regarder à la vie éternelle, non seulement à la vie terrestre. Notre focus déterminera grandement comment nous allons traverser l'épreuve et son résultat final. Tout dans la vie du croyant a pour but ultime la gloire de Dieu. La mise en pratique de notre foi dépend de notre conception de la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu peut être le fruit de nos épreuves? Quand on vous dit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est au centre de toutes les Écritures. Tout a été fait pour sa gloire. Ça veut dire quoi ça, la gloire de Dieu? Parce que notre compréhension de ce qu'est la gloire de Dieu va affecter énormément la mise en pratique concrète de notre foi. La façon dont notre foi va nous supporter dans notre quotidien. La façon dont notre foi en Dieu va influencer nos choix, nos réactions, nos désirs, nos paroles, toutes nos pensées. Fait que notre conception de la gloire de Dieu va affecter tout ça. Donc, quand on parle gloire de Dieu, qu'est-ce qui vous vient en tête? Élever Dieu, Richard?
Je reviens encore à Job.
Tu reviens à Job, OK?
Parce qu'au départ, il dit, « Hey, t'as-tu vu Job, mon serviteur? Hein? Il était fier de lui, là. »
Dieu était fier de Job. Oui, regarde mon serviteur. Puis, ben oui. Oui, OK. Oui. Oui. Job était constamment dans la pensée de la présence de Dieu, puis il était constamment, tous les jours, il purifiait ses péchés, même ceux des autres. Il était pieux envers le Seigneur. Oui. Fait qu'on peut dire que Job rendait gloire à Dieu. OK? Autre chose. Quand on vous dit gloire de Dieu, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je le sais pas, OK? C'est correct aussi. Ça nous dépasse, hein? C'est gros, c'est grand. On peut-tu changer quelque chose à la gloire de Dieu? Ben non. C'est sa gloire à lui, c'est ce qu'il est. Il est glorieux. Tu sais, de rendre gloire à Dieu, on change pas la gloire de Dieu en lui rendant, là. Première des choses. OK? Oui, Jacqueline. Tu veux dire quelque chose?
Ben, moi, ça m'amène toujours à la croix. Parce que Jésus a dit que tout ce qu'on demanderait en son nom, ce serait pour que Dieu se glorifie. Alors, c'est pour tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est en mettant notre foi en Dieu, c'est pour le glorifier.
Ça nous ramène, je répète pour l'enregistrement, là, je résume un peu, ça nous ramène à la croix. Comme tu dis, ou est-ce que tout est fait pour la gloire de Dieu? Demandez, puis Seigneur va répondre à votre prière pour le glorifier, pour sa gloire. Donc, c'est vraiment une manifestation de sa personne. Rendre gloire à Dieu, c'est de manifester ce qu'il est. Manifester ses attributs. C'est très important, puis ça l'implique toute la mise en pratique de notre foi, de notre conception de la personne de Dieu. La gloire de Dieu, elle est le reflet de ce que l'on pourrait appeler sa distanciation infinie. Hein? C'est simple. L'as-tu écrit comme faux? C'est plus que 2 mètres. C'est sa distanciation infinie. OK? C'est grand, là. Il n'est pas un Dieu apprivoisé, un Dieu à portée de main. OK? Le Dieu biblique dépasse notre entendement, dépasse notre compréhension. OK? Dieu est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Ça nous dépasse. Oui, c'est ça que tu disais, Robert. Ça nous dépasse. Et de la gloire de Dieu, c'est le reflet de la distance entre ce que nous, on est et ce que lui est. Dieu n'est pas un Dieu apprivoisé. Dieu n'est pas un Dieu qui est à notre service. Dieu n'est pas un Dieu plus petit que nous. Notre logique, notre compréhension du monde... OK? Notre façon de raisonner n'est pas la sienne. Parce que il est bien au-delà de ce que nous sommes. Oui?
Juste pour aider à expliquer, oui. Je pense qu'on peut dire que nous, on est fini.
Comment est-ce qu'on est? Oui. Non, c'est correct. Quelqu'un qui est infini. Donc, on se compare, nous, qui est fini, on est pris dans le temps, on est figé dans la physique, dans les lois, puis dans l'espace, dans le temps, dans tout, OK? On est fini. Puis là, on parle de quelqu'un qui est infini, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement. Déjà, juste ça, ça dépasse notre compréhension. Oui?
OK? Parce que la distanciation, je trouve que ça fait un Dieu loin. Je dirais la différence.
OK? au lieu de dire distanciation, de dire la différence. Oui, parce que c'est vraiment dans la comparaison, c'est vraiment juste pour définir la grandeur de Dieu, le fait qu'il est infini puis que nous on est défini. Dans ce sens-là, il y a toute qu'une distance entre nous. Dans ce sens-là, c'est important que tu le spécifies. Mais quand on regarde ce Dieu infiniment grand-là, il n'est pas loin de l'être humain. C'est important, là.
Nos mots sont finis. On essaie de décrire quelque chose qui est infini.
Oui, on n'a pas les mots pour décrire la personne de Dieu. C'est clair. Et c'est Dieu, il a utilisé le médium par excellence pour se faire connaître d'une façon que l'homme peut comprendre. Il y a plein d'affaires dans les Écritures que Dieu n'a pas expliqué de lui parce que c'est juste au-delà de notre compréhension. Les choses cachées appartiennent au Seigneur. Il faut réaliser ça. Mais malgré cette distance-là, en comparaison de ce que nous sommes et de ce que Dieu est, okay, on a un Dieu qui est près de nous et qui n'est pas loin et qui n'est pas distant. Le Dieu biblique dépasse notre entendement, ce qui rebute bon nombre de nos contemporains. Il est fréquent de s'entendre dire « Je ne peux pas croire à un Dieu capable de faire ceci » ou « Je ne peux pas croire à un Dieu qui nous juge ». En réalité, nous ne voulons pas d'un Dieu glorieux, mais nous ne voulons pas d'un Dieu glorieux, d'un Dieu qui nous dépasse. C'est une des choses que l'être humain n'aime pas de la personne de Dieu, c'est qu'il est plus grand que nous. Et c'est une des vérités qui est très difficile à avaler pour l'être humain, premièrement. Et nos cœurs luttent avec ça. Un Dieu qui est plus grand que nous, un Dieu qui nous dépasse. Des fois, on se dit, je ne peux pas croire que Dieu a fait ça ou que Dieu a permis ça. Je ne peux pas croire que Dieu nous juge. C'est des reproches, c'est des choses qui sont faites envers Dieu, mais en réalité, c'est qu'on ne veut pas d'un Dieu qui nous dépasse. Deuxièmement, la gloire de Dieu reflète également son importance suprême. Son importance suprême. Quand on regarde le mot hébreu pour gloire, qui est kabod, le mot kabod pourrait se traduire par le mot poids, quelque chose qui est lourd, un poids. Le poids de Dieu. Si nous regardons au champ lexical de ce mot, on a un équivalent dans notre langue qui est le mot matière. Okay? Quand on regarde ce mot-là, bon, ça soulève l'importance du contenu, de l'importance être. Dieu a un poids. Dieu est présent. Dieu est important. Okay? Dieu, il a une importance. Il a une place. Il est là. Dès lors, quand la Bible dit que Dieu est glorieux, elle veut dire qu'il devrait compter, qu'il est important. Dieu a une importance. Dieu est glorieux. Donc, Dieu a un poids. Dieu a une importance. Dieu, sa présence est justifiée, ne peut pas rester inaperçue. Dès lors, c'est ça, elle veut dire que Dieu devrait compter, qu'il est important, au-delà de toute autre chose ou personne. La gloire de Dieu est au-dessus de tout. Son importance est au-dessus de tout. Son poids est important, est au-dessus de tout. OK? De toute chose ou personne. Si quelque chose ou quelqu'un a plus d'importance à nos yeux que Dieu, c'est que nous ne reconnaissons pas sa gloire. On rend gloire à quelque chose d'autre. Donc, dans le mot de « accorder son importance », il y a l'élément de « rendre gloire ». Quand on donne plus d'importance à quelqu'un ou à quelque chose, on élève cette chose-là à un niveau d'importance plus grand que Dieu. Donc, la gloire de Dieu reflète l'élément de son importance, de sa priorité, de sa primauté dans l'univers et dans notre vie. De rendre gloire à Dieu, c'est de lui accorder l'importance qui lui est due. De reconnaître qu'il est infiniment plus grand que nous, de reconnaître qu'il est ce qu'il y a de plus important, qui devrait avoir le plus de poids et d'importance dans notre vie, quand on met la balance, on met Dieu d'un bord et on met tout le reste, c'est Dieu qui devrait être plus pesant que tout le reste. OK? Que ce soit une personne, une chose, une passion, peu importe, tout ce qu'on met à la place de Dieu, qui a plus d'importance que Dieu, ça n'a pas sa place. On est en train de rendre gloire à cette chose-là au lieu de rendre gloire à Dieu. OK? Et ça va loin. Cet élément-là. On rend gloire à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. La troisième, son absolue splendeur et beauté. Troisièmement, la gloire de Dieu est son absolue splendeur et beauté. Dans l'Ancien Testament, le mot « gloire » signifie « importance », comme on vient de voir. Et dans le Nouveau, le mot grec qui est « doxa » pour « gloire » signifie « louange, merveilleux, luminosité, éclat ou beauté ». Intéressant, dans l'Ancien, en hébreu, puis dans le Nouveau Testament en grec, le mot qui est traduit par « gloire », c'est des mots différents, et les deux définitions se complètent et viennent présenter deux angles de l'élément de la gloire de Dieu. Son importance, son poids, mais aussi sa beauté, sa luminosité, ses merveilles, sa louange, son éclat. Jonathan Edwards a dit un jour, « Dieu est glorieux quand sa gloire est visible, mais aussi quand elle nous ravit. Il ne suffit pas de dire, « Bon, il est Dieu, je vais me soumettre. » Il vous faut discerner sa beauté. Glorifier Dieu, ce n'est pas lui obéir par obligation, mais parce qu'on le veut, parce qu'on désire, parce qu'on est attiré par lui, parce qu'on prend plaisir en lui. Donc, il y a l'élément de reconnaître la beauté, la bonté, l'amour de Dieu. Et là, on parle de toutes ces caractéristiques qui sont attirantes pour le cœur humain. De reconnaître sa beauté, sa bonté, sa luminosité et de toutes ces choses-là, ça fait partie de la gloire de Dieu. Donc, de reconnaître Dieu pour qui il est, de lui donner la juste place dans sa vie, dans notre vie, et de reconnaître qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, avoir une attirance pour lui qui définit toute l'obéissance que Dieu désire avoir de notre part, une obéissance d'un cœur sincère qui le fait par amour, par reconnaissance de qui il est. Comme un enfant qui s'empresse d'obéir à ses parents, j'aimerais ça, un enfant qui s'empresse d'obéir à ses parents parce qu'il se sent pleinement aimé et qu'il voit ses parents comme étant bons, merveilleux, puis là, je vais en mettre plein, là, parce que, parfait. Et que j'aimerais donc ça. Mais, faut que je sois parfait. Je suis pas Dieu, hein? Donc, mais on a un papa qui est comme ça. Mais est-ce qu'on le voit? Hein? Est-ce qu'on le voit? Mais quand on parle que rendre gloire à Dieu, c'est ça, rendre gloire à Dieu. Et nos souffrances, la façon dont on vit nos souffrances font ça. C'est ça que les Écritures nous disent. La façon dont on vit nos souffrances et nos souffrances font ça. Là, je l'ai mis le texte. C'est ça. Reconnaître que Dieu est glorieux consiste non seulement à admettre son côté incompréhensible et sa suprématie, à faire de lui ce qui compte le plus, mais encore à travailler son cœur de manière à le considérer comme l'être le plus beau et le plus agréable qui soit pour nous. Maintenant, le lien entre ça et l'épreuve. La clé, c'est sur comment la gloire de Dieu peut être le fruit de nos épreuves. La clé, on l'a lu tantôt, la clé, c'est Jésus-Christ. Comment nos difficultés, nos épreuves peuvent rendre gloire à Dieu? La clé là-dedans, c'est Jésus-Christ. Comment quelque chose de difficile peut rendre gloire à Dieu et puis reconnaître ces éléments-là qu'on vient de voir? La clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est la suivante, on la voit dans les textes. Tentez de vivre ainsi entre vous. Philippiens 2, 5 à 11. Tentez de vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, afin que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu. Ça veut dire que Jésus a quitté le ciel, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir souffrir sur la terre, OK? Dans le but que tout genou s'agenouille, OK, devant lui, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Les souffrances de Jésus, les raisons pour lesquelles sont une gloire pour Dieu, parce qu'elles ont démontré tout ce que Dieu a fait par amour pour nous, elles ont démontré la personne même de Dieu, son but et son plan par rapport à la déchéance de ce monde, et tout a été réglé à la croix. En Jésus-Christ, la justice de Dieu a été accomplie, a été payée, la dette du péché a été payée, et en même temps, Jésus-Christ a démontré, hors de tout doute, l'amour de Dieu pour l'être humain. Jésus a racheté, à travers ses souffrances, l'humanité. Et ça démontre à tous les êtres humains la gloire de Dieu, la suprématie de Dieu, son importance et à quel point il est bon, il est merveilleux. Jésus a mis de côté sa gloire, il est venu à travers ses souffrances, la gloire de Dieu a été démontrée, a été manifestée, a été rendue publique, pour que les hommes se tournent vers Dieu et reconnaissent qui il est. Tout ça à travers sa souffrance. Comprenez? Les souffrances de Christ ont mené l'humanité à rendre gloire à Dieu parce que à travers les souffrances du Christ, l'humanité a été rachetée. Et la personne de Dieu a été magnifié, a été rendu tangible et visible à tous les êtres humains pour que eux se tournent vers Dieu et lui rendent gloire également. Quand on regarde les passages qu'on a vus tantôt, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, Romains 8, 17. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. On prend part à l'œuvre de Jésus ici. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Comme la gloire s'est révélée en Jésus-Christ, quand Jésus est mort, il a ressuscité, sa gloire s'est manifestée. Et c'est la même chose qui va nous arriver le jour où ce que Dieu va nous ressusciter également. Le fait qu'il va nous ressusciter comme il a ressuscité Christ va manifester sa gloire. Donc, on prend part aux souffrances. C'est comme si les souffrances de notre vie, c'est le parallèle avec les souffrances de Jésus-Christ marchant à la croix. Donc, la façon dont on vit nos souffrances, ce que nos souffrances démontrent, de notre cœur, de notre vie, de la personne de Dieu, va faire en sorte que les gens vont se tourner vers Dieu ou ils vont se détourner de Dieu. Voyez-vous comment nos souffrances jouent un rôle important? Comment le chrétien qui souffre, la façon dont il vit, a un impact sur la façon dont les gens vont adorer Dieu ou non. On prend part aux souffrances de Christ. 2 Corinthiens 4, 15, 18. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Paul ici, il dit, là, carrément, là, on souffre toutes ces choses-là, on les endure, OK? Pour que la grâce abonde, parce que ça va permettre d'atteindre de plus en plus de personnes, ce qui va faire en sorte que ça va augmenter le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. On va augmenter le nombre d'adorateurs de Dieu par nos souffrances. Donc, j'endure mes souffrances parce que je sais qu'ils sont utiles. À quoi? Ils sont utiles à ce qu'en bout de ligne, plus de monde reconnaisse la gloire de Dieu. Puis tu peux même te réjouir de tes souffrances. Ouais, de là, dans cette version-là, là, c'est ça, mais il y a dans d'autres passages, c'est la même chose aussi. Dans 1 Pierre 4, 12, 13, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ. » Donc, ça va loin. Ça va loin, ces éléments-là. La façon dont on vit notre souffrance, ben, on peut la vivre comme Jésus-Christ dans le but de tourner les gens vers Dieu, de glorifier la personne de Dieu. Ça change notre perspective qu'on a de l'utilité de nos souffrances. Hein? Moi, en tout cas, de voir tout ça, ça a comme ouvert mes œillères. Ouh! Mes souffrances peuvent contribuer à ce qu'il y ait plus de gens qui adore le Seigneur en bout de ligne. Et ça, ça dépend de la façon dont je vis ma souffrance, de mon cœur et de mon attitude pendant la souffrance. Oui, Richard. Ouais. C'est Johnny Erickson, c'est ça? Quadraplégique à 17 ans. Puis elle a écrit un livre sur la souffrance, je l'ai chez nous. On me l'a prêté. Mais dans les premières années de sa vie, cette femme-là, quand elle est tombée quadraplégique, elle a eu des années très difficiles. Elle a vécu l'amertume, le ressentiment, le sentiment d'être trahie par Dieu. Et toutes ces émotions-là, toutes ces étapes-là qu'elle a vécues, elle l'a remis en perspective. Elle a appris. Et c'est avec ça que je veux terminer, parce que avec un message comme ça ce matin, c'est facile de dire ben, « arrête de chialer dans tes épreuves, parce que de toute façon, tu rends gloire au Seigneur. » Fait que vis-les d'une façon qui va rendre gloire à Dieu, parce que tu fais juste chialer présentement, puis c'est pas en chialant que tu vas rendre gloire au Seigneur, puis que tu vas emmener les gens vers lui. Allez dire ça à une personne qui souffre. Après ça, appelez-moi, puis je vais aller venir vous donner une tape derrière la tête pour être poli. OK? Là, ce qu'on regarde, OK, c'est avec notre tête. OK? On regarde la vérité d'une façon froide et éloignée. OK? Et je vous le répète parce que c'est important. On regarde la vérité d'une façon froide et éloignée. Mais tantôt, on va s'approcher. On va s'approcher du cœur. On va s'approcher de la différence entre notre compréhension avec notre tête, comme on a vécu ce matin, comme on a vu. On est tous « wow, c'est beau, c'est bon ». Ça change ma perspective de la souffrance. Et là, le jour où on va se trouver dedans, on va se rendre compte que nos actions ne correspondent pas nécessairement à notre compréhension. Et c'est là qu'on tombe déstabilisé parce qu'on se dit « ça ne devrait pas être comme ça, je ne devrais pas être comme ça, il y a de quoi qui ne marche pas avec moi. » Attendez. Et c'est là que les vérités passent de la tête au cœur. Oui, et c'est là que mon cœur, on voit ce que notre cœur croit réellement sur la personne de Dieu. À l'intérieur, oui. Oui. Et on va prendre le temps dans les prochaines semaines. On va décortiquer tout ça. On va se rendre là. Mais il y a encore des vérités loin et froides que l'on doit avoir avant. Parce que c'est important d'avoir ces fondements théologiques-là pour venir confronter la façon dont on vit notre souffrance. C'est utile de prendre le temps de regarder avec notre tête qu'est-ce que les Écritures disent. C'est quoi les vérités? C'est important de se préparer à vivre la souffrance. Parce que si on n'est pas préparé de cette façon-là avant de vivre la souffrance va être beaucoup plus douloureuse. Il va avoir des conséquences beaucoup plus profondes que si on est préparé. Le but n'est pas de tomber dans le déni de ce qu'on est en train de vivre pour être glorieux puis de dire « Regardez comment est-ce que moi, je marche par-dessus cette souffrance-là en étant tout au contrôle. » C'est pour la gloire de Dieu de toute façon. Fait que j'avale ma pelule, je suis fort et puis vous allez voir, ça rend gloire à Dieu. Mais attendez une minute. Jacques, chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Mais il faut que la patience, l'épreuve de votre foi accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Voyez-vous, il y a l'élément d'accueillir le processus dans lequel on vit dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Ce n'est pas dans le déni de ce que l'on vit que se passe la croissance et la gloire de Dieu. Bien au contraire, c'est en y faisant face, en acceptant les choses comme elles sont, et nos cœurs nous révèlent les choses comme elles sont. C'est pas notre tête nous révèle les choses comme elles devraient être. Et là, il y a les choses, comment elles sont réellement dans notre vie, et comment est-ce que l'épreuve va venir joindre les deux ensemble. Et c'est là que la transformation se produit, et que la gloire de Dieu est vraiment manifestée parce que notre attitude est changée dans la souffrance. Et la prochaine souffrance qu'on va vivre, on va avoir développé une résistance, on va avoir grandi, puis la prochaine fois, on va l'aborder d'une façon complètement différente, en ayant grandi. Et de foi en foi, le Seigneur vient adresser nos cœurs. Et toute cette belle théorie-là devient de plus en plus concrète dans nos vies à la gloire de Dieu. Allons dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce temps qu'on a eu ce matin. Seigneur, c'est particulier pour l'être humain de comprendre, de voir que nos souffrances sont si utiles. À quel point nos souffrances, Seigneur, peuvent contribuer à ce point à l'avancement de ton œuvre, à ce qu'il y ait davantage de personnes qui te louent, qui te glorifient. En bout de ligne. Seigneur, merci de venir confronter notre vision du monde, notre vision de cette souffrance-là, Seigneur. Merci de nous ramener dans la vérité de tes Écritures, dans ta vérité, Seigneur. Je veux aussi, Seigneur, te demander de venir à notre secours, Père éternel, parce qu'il y a souvent un canyon, Seigneur, entre ce que notre tête accepte et ce que nos cœurs vivent. Père éternel, On veut te demander ta grâce, tes bontés, ta douceur envers chacun de nous pour que ces vérités, Seigneur Jésus, deviennent vraies, non seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. De nous donner le courage, Seigneur Jésus, de vivre ces processus pour que nos souffrances, que nos épreuves accomplissent parfaitement leur œuvre en nous pour ta gloire. Ce n'est pas des processus faciles, Seigneur, mais ils sont essentiels. Seigneur, on veut que nos vies te glorifient en toutes choses, que nos souffrances également, Seigneur, te glorifient et contribuent, comme celles de Jésus-Christ ont contribué à l'avancement de ton royaume et à la manifestation de ta gloire, Père éternel. Que chacun des aspects de notre vie te glorifie, Seigneur Jésus. Que l'on te mette tous et chacun en priorité dans chacune de nos vies. Que nos cœurs, Seigneur, soient attirés par ta beauté, ta grandeur, ta magnificence. Que nos cœurs soient remplis de louanges et de reconnaissance de qui tu es, un être infiniment au-delà de tout ce qu'on peut même imaginer. Père éternel, tu es digne de cette gloire, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine. J'aimerais vous inviter, on va aller dans la louange, l'adoration.